Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le Chitivu, la télévision du Vatican, a 30 ans. L'occasion pour le pape de remercier ses employés et de rappeler le sens de cette télévision unique au monde qui porte la voix du pape et de l'Église aux quatre coins de la planète. Dans ce magazine, nous irons aux Philippines où l'Église s'engage contre la corruption. Et puis nous ouvrirons une page africaine avec le témoignage de sœur Angélique Namaïka. Elle vient en aide aux femmes victimes des milices de la LRA dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus dans ce magazine. À l'occasion des 30 ans du Chitivu, le centre télévisé du Vatican, le pape François a transmis ce vendredi un message de remerciement et de soutien à son directeur, Monseigneur Dario Eduardo Vigano, ainsi qu'à tout le personnel travaillant dans cette télévision unique au monde, une télévision chargée de couvrir toutes les activités du pape. Un séminaire d'une journée était organisé ce vendredi à Rome pour célébrer cet anniversaire, au cours duquel un message du président de la République italienne, Giorgio Napolitano, a également été lu. Dans son message, le pape François rappelle le sens et la mission spécifique du Chitivu, Jean-Baptiste Cocagne.
Votre travail est un service à l'Évangile et à l'Église, souligne le pape. Cet anniversaire du Chitivu a d'autant plus de sens qu'il intervient aussi alors que sont fêtés les 50 ans du décret de Vatican II, Inter Mirifica, sur les communications sociales. Durant ces trois dernières décennies, la technologie a évolué à grande vitesse, créant des moyens inattendus de connexion. Cette autoroute globale de l'information doit garder une place pour la voix de l'Église, explique le pape, qui rappelle les encouragements de ses prédécesseurs. Ainsi, en créant le Chitivu, Jean-Paul II avait voulu favoriser une action plus efficace de l'Église dans les communications sociales. En 2008, en recevant les membres du Chitivu, Benoît XVI expliquait qu'en mettant les images à disposition des plus grandes agences télévisées mondiales et des grandes télés nationales ou commerciales, vous favorisez une information adéquate et opportune sur la vie et l'enseignement dans l'Église, dans le monde d'aujourd'hui, au service de la dignité de la personne humaine, de la justice, du dialogue et de la paix. Ainsi, le pape invite les membres du Chitivu à ne pas oublier que leur travail est un service d'église qui s'inclut dans une mission évangélisatrice. Il salue aussi le rôle que joue la télévision du Vatican pour rapprocher l'église du monde, en portant la voix du pape et du Saint-Siège à des millions de catholiques et même au-delà.
Le pape recevait ce vendredi le président du Cameroun, Paul Biya. Ce dernier était accompagné de son épouse. Selon le Saint-Siège, les participants ont exprimé leur satisfaction pour les bonnes relations bilatérales existantes, des relations qui devraient encore être renforcées prochainement avec la signature d'un accord cadre à propos du statut juridique de l'Église catholique au Cameroun. Les deux parties ont souligné la contribution positive de l'action de l'Église dans le pays, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, mais aussi en faveur de la paix et de la réconciliation. A noter que c'est la cinquième fois que Paul Biya se rendait au Vatican depuis qu'il est au pouvoir en 1982. Et autre rendez-vous du pape ce vendredi, le Saint-Père a reçu les responsables de la Commission internationale pour l'anglais dans la liturgie. Il les a remerciés pour la collaboration à l'unité de l'Église dans la foi et dans la communion sacramentelle, en permettant aux fidèles du monde entier de prier avec un langage commun. Cette commission internationale était présente à Rome ces jours-ci à l'occasion du 50e anniversaire de sa création. L'un des fruits récents de son travail a été l'élaboration d'un nouveau missel dont l'usage a été rendu obligatoire en novembre 2011 dans toutes les paroisses de rite romain des États-Unis et dans d'autres régions du monde anglophone. Un message vidéo du pape François a été diffusé au cours de la première conférence sur la nouvelle évangélisation en Asie qui s'est achevée ce vendredi aux Philippines. S'exprimant en anglais, le souverain pontife invite les catholiques philippins à faire connaître Jésus au monde de la politique, de l'entreprise, de la culture, de la science, de la technologie et des réseaux sociaux. Le pape souhaite également la justice et la paix aux Philippines et sur le grand continent asiatique dont il se sent proche par le cœur. Organisée à Manille, cette conférence internationale s'est achevée par une messe solennelle suivie d'une procession dans les rues de la capitale. Et nous vous en parlions la semaine dernière, l'Église philippine se mobilise dans la lutte contre la corruption dans le pays. Tous les vendredis, désormais, les cloches des églises de tous les diocèses de l'archipel sonnent pour manifester leur rejet du clientélisme et de la corruption. L'Église avait déjà pris position officiellement dans le cadre d'une imposante manifestation au mois d'août dernier à Manille. Pour David Camrou, maître de conférence à Sciences Po Paris, l'Église philippine garde une influence importante sur le gouvernement d'Aquino.
L'Église a toujours eu un poids dans la vie politique des Philippines. Par exemple, c'est l'action du cardinal de Manille en 86, le cardinal Sin, qui a mis l'Église à côté des manifestants et qui a amené à la chute du dictateur Ferdinand Marcos. Mais l'Église a une importance capitale dans la vie politique du pays. Mais cette influence est peut-être moindre aujourd'hui. Premièrement, que le nombre de catholiques a diminué. Au lieu d'être 90% de la population, c'est maintenant 85%. Et avec l'impact des églises évangéliques, de l'église protestante et des sectes. Et deuxièmement, on a vu plus récemment, par exemple, sur les questions de contraception, que le président actuel, Benny Aquino, qui est le fils, justement, de l'ancien président Cory Aquino, a défié l'Église sur cette question. Donc, si l'Église se trouve à côté des manifestants sur ce sujet, il peut peser, mais pas seulement, en fait, en alliance avec d'autres forces de la société civile.
Le pouvoir est plus susceptible d'écouter la rue si l'Église est à côté des manifestants?
Tout à fait. En fait, le pouvoir est sensible à ces questions. Nonio Aquino, l'actuel président, a été élu justement sur l'image qu'avait sa mère, qu'on appelle aux Philippines la Sainte Cory, qui est une femme d'une grande intégrité. Et donc, il bénéficiait de cette image avec un plafond justement d'une lutte contre la corruption. Donc, il est sensible à cette question. Le problème est plutôt structurel et dans la culture politique du pays. C'est structurel dans la mesure où nous avons, pour simplifier, une société qui est en quelque sorte, qui reste féodale, qui fonctionne sur les systèmes de patronage, néo-patrimonial, extrêmement développé, extrêmement enraciné dans ce pays, qui avant la colonisation espagnole n'avait pas justement de structure étatique. Et donc, les chefs des villages, ce qu'on appelle des banlieues, ce qu'on appelle en philippin les barangays, restent des acteurs importants. Donc, il y a un lien très étroit entre le politique et l'économique. 70% des membres du Congrès philippin vient des dynasties politiques. Nous avons un système clanique avec féodal, néo-patrimonial, qui demande, pour être élu, qui demande des ressources considérables. Et c'est justement ces campagnes et la façon dont reste au pouvoir qui est une des sources principales de la corruption de ce pays.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. Le Conseil constitutionnel en France ne reconnaît pas de clause de conscience aux maires opposés au mariage homosexuel. C'est ce qu'a annoncé l'institution dans une décision rendue ce vendredi matin. L'absence de cette clause serait, selon certains élus, contraire à la Constitution, contraire même aux libertés fondamentales garanties par la Déclaration de 1789, qui stipule que nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Dans une décision de 5 pages, le Conseil constitutionnel juge qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, le législateur n'a pas porté atteinte à leur liberté de conscience. Il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Les maires hostiles à la célébration du mariage homosexuel, dont le collectif revendique le soutien de 20 000 élus, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils se tourneraient vers la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour tenter d'obtenir satisfaction. Et restons en France où, dès ce vendredi et jusqu'à dimanche prochain, les journées essentiellement s'intéressent au défi de la nouvelle évangélisation, 50 ans après le Concile Vatican II. Pendant 3 jours, des colloques sont organisés à l'initiative du diocèse du Mans, avec des grands témoins de diverses religions et cultures comme Mgr Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, l'archevêque de Milan, le cardinal Scola ou encore l'écrivain d'origine juive Marek Alter. 700 personnes sont attendues au palais des congrès du Mans avant la messe conclusive qui aura lieu dimanche en la cathédrale du Mans et durant laquelle une grande croix sera installée. L'initiative est née il y a 3 ans dans l'esprit de Mgr Yves Lesseau, l'évêque du Mans. L'idée est de mieux connaître l'état du monde et des autres cultures avant d'aller porter l'évangile vers ceux qui ne le connaissent pas. afin que les communautés chrétiennes soient véritablement capables d'accueillir ces nouveaux arrivants dans la foi. Le père Paul-Antoine Drouin est vicaire général du diocèse du Mans. Il nous présente ses journées.
Ça fait 3 ans qu'on porte ce projet. En fait, c'est dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Notre évêque a participé au synode, d'ailleurs en 2012. Et nous, on se disait, mais on est prêts. En fait, on voit aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes, il y a ces jeunes pousses qui nous disent qu'il faut annoncer l'évangile de manière nouvelle. Mais la question, c'est quels moyens il faut prendre. Et avant de se donner une méthode, on s'est dit, la nouvelle évangélisation, c'est d'abord réfléchir dans quel monde nous vivons. Et c'est pour ça que la question vraiment au cœur, c'est de dire, mais à quel homme nous adressons-nous lorsque nous annonçons l'évangile? Et avec l'idée de fond, qui est de dire, plus nous connaîtrons nos frères et sœurs en humanité, plus on les comprendra et plus on les aimera. Parce qu'il y a une question de base pour la nouvelle évangélisation, c'est on annonce une bonne nouvelle uniquement à une personne que l'on aime. Quoi. Une personne dans notre entourage que l'on n'aime pas, on va rien lui annoncer de beau. Mais si nous aimons notre humanité, nous irons lui annoncer une bonne nouvelle. Il faut d'abord que nos communautés chrétiennes soient capables d'accueillir ces nouvelles personnes à qui on va annoncer l'évangile. Parce que c'est toujours le risque dans nos paroisses, c'est on veut bien ouvrir la porte pour que des nouvelles personnes rentrent, mais on ne s'est jamais posé la question de quelle tête avait la communauté avant et quelle tête avait la famille qui allait accueillir ces nouveaux arrivants. Dans la nouvelle évangélisation, on voit qu'il y a la conversion personnelle qui est première. Avant d'aller convertir les autres, il faut d'abord se convertir soi-même et être capable d'annoncer un beau message. Donc la méthode, elle vient de toute manière toujours en second.
L'idée de ces journées essentiellement est venue avec le synode par Mgr Lesseau. Est-ce que, du coup, ça répond aussi à cette invitation permanente du nouveau pape d'aller dans les périphéries?
Dans cette continuité qui est entre Benoît XVI et François, nous, ça va sûrement orienter, il ne faut pas se le cacher, notre manière d'évangéliser. Ça va nous permettre sûrement d'approfondir la question. On voit bien, François nous interpelle sur la bonté, quoi. Pour être des apôtres qui annoncent l'évangile aujourd'hui, il faut être des apôtres de la bonté. Donc on en revient à ce ferment de la nouvelle évangélisation qui est d'abord la conversion personnelle. Moi j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas des bulldogs qui convertissent, quoi, mais c'est des chrétiens qui sentent la bonne odeur du Christ, qui sentent la bonté. Quoi. Et là le pape François, je crois, nous renvoie à cette image, de nous dire quelle est l'image, le visage du Christ que vous donnez au cœur de ce monde. Et un autre élément qu'on a pris en compte aussi dans les journées essentiellement, et ça qui est dû certainement à l'interpellation du pape François, mais aussi de la longue démarche diaconia en France, c'est que nous allons nous donner, durant ce colloque, au milieu de ces grands intellectuels qui viennent, on va donner la parole à des plus pauvres. Voilà, et des gens qui, entre autres, ont témoigné à diaconia et qui vont nous dire, mais voilà comment nous, les plus pauvres, nous voyons l'annonce de l'évangile. Et c'est décapant, hein. Personnellement, je les ai déjà entendus. Et ils nous disent des choses tellement simplement, mais qui touchent les cœurs. Et eux vont nous aider à ça.
C'était le père Paul-Antoine Drouin, vicaire général du diocèse du Mans, au micro de Jean-Baptiste Cocagne. Ouvrons une page africaine pour terminer ce magazine. Venir en aide aux femmes victimes des exactions de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Telle est la raison de vivre de sœur Angélique Namaïka. Cette religieuse congolaise a reçu au mois de septembre dernier le prix Nansen du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le 2 octobre dernier, sœur Angélique a assisté à l'audience générale place Saint-Pierre. Elle a pu saluer le Saint-Père qui lui a accordé sa bénédiction apostolique et l'a encouragée dans sa mission. Après Rome, sœur Angélique a poursuivi sa tournée européenne à Paris, Bruxelles et Oslo pour témoigner de son combat en faveur des femmes meurtries, des violences perpétrées par l'armée de résistance du Seigneur, l'une des rébellions les plus violentes au monde, une milice née en Ouganda et qui sévit dans le nord-est de la RDC depuis environ 5 ans. Écoutez son témoignage.
Les femmes déplacées qui ont vécu les atrocités avec la LRA dans la Bruxelles sont sorties avec des enfants, d'autres avec des lèvres coupées et toutes sortes d'atrocités sur elles. Quand elles sont arrivées, je les aidais d'abord premièrement pour les orienter vers les aides chez les humanitaires. Et après, quand elles se sont installées dans leur camp, j'ai commencé maintenant à les aider avec l'aide des formations professionnelles, la coupe couture, art culinaire, alphabétisation et les chants communautaires. Comme les psychologues faisaient leur travail avec le dialogue directement, moi j'ai vu que si je les occupe avec une formation professionnelle, ça va leur demander beaucoup d'attention dans cela. Ça va les empêcher de mettre beaucoup de temps pour penser à toutes ces violences qu'elles avaient reçues dans la brousse ou bien dans les villages où elles étaient venues.
Vous êtes, à travers ce soutien, témoin de récits d'atrocités. Votre propre foi a-t-elle été, par moments, ébranlée?
J'ai écouté tout ce que ces femmes ont raconté. Cela n'a pas diminué ma foi. Je vois que ces femmes ont vraiment la douleur intérieure. Mais ça ne diminue pas ma foi. Ça me pousse alors à aider ces femmes à pouvoir sortir de cette souffrance qu'elles portent en elles. Parce qu'elles ne peuvent pas demeurer dans cette souffrance. Car pour moi, la femme a une grande responsabilité. Il faut qu'elle puisse être dans la paix. Si elle doit toujours avoir le visage triste, être malheureuse devant son enfant, comment est-ce qu'elle va aider la femme à pouvoir être heureux? Comment est-ce qu'elle doit aider la femme à pouvoir être un homme ou bien une femme qui pardonne? Et c'est pour cela que, quand elle raconte cela, je porte ça comme c'était mon histoire, pour qu'elle sache que j'ai compati avec elle. Et je commence à l'aider petit à petit, qu'elle puisse comprendre, à arriver aussi à surmonter pour prendre une autre vie. Parce que si elle demeure dans cela, c'est une autre maladie pour elle.
Vous êtes allé jusqu'à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies pour plaider en faveur de ces femmes victimes de violences. Vous avez le sentiment que la communauté internationale n'a pas mesuré véritablement le drame qui est en train de se jouer dans le nord-est de la République démocratique du Congo.
J'ai fait ce plaidoyer pour qu'on puisse leur amener des projets, des assistances durables pour les rendre autonomes. Parce que les atrocités ont fait plusieurs années, presque 5 ans maintenant, et les ONG de dirigeance plient leur bagage pour partir. Or, les femmes sont encore sur les lieux de déplacement et ne sont pas encore devenues autonomes. Et leurs enfants n'ont pas vraiment accès à l'hôpital, aux soins de santé, parce qu'elles doivent payer. Elles doivent aussi payer les frais de scolarisation pour les enfants. J'avais fait le plaidoyer afin qu'on puisse aider encore les femmes et les enfants à être autonomes.
Ce prix Nansen est venu encourager ce travail que vous faites auprès des femmes victimes de violences, mais il leur permet aussi, en quelque sorte, de sortir de l'ombre.
Ce prix Nansen est le bienvenu chez nous, parce que ce prix, c'est pour les femmes et les enfants enlevés par la LRA. Et je suis sûre que ça va beaucoup faire pour la paix de ces femmes-là. Toutes ces formations que nous faisons, c'est pour les aider à pouvoir sortir de leur traumatisme, à pouvoir être capables de se prendre en charge. Ce prix va encore intégrer d'autres personnes qui ont peur. Parce qu'avec la violence sexuelle, les femmes ne se dévoilent pas. Parce que c'est d'abord la honte, salir la dignité de quelqu'un, ce n'est pas facile. Mais avec ce prix-là, je suis sûre que nous allons sauver plusieurs femmes pour les enlever dans ce traumatisme. Parce que notre peur est que si la femme demeure dans cela pendant longtemps, nous n'espérons pas à un monde meilleur dans notre pays. Parce que la femme est le fondement de la famille. C'est pour cela que, avec ce prix, je suis sûre que les femmes du territoire de Dungu et pourquoi pas de la RDC vont sortir de leur traumatisme. Et peut-être avec cela aussi, elles ne vont pas cesser à parler de la paix. Parce que c'est grâce à ces femmes que ce qui se passe aujourd'hui chez nous pour ce qui est de la guerre, cela s'est fait attendre dans le monde entier. C'est grâce à ces prix que ces femmes victimes-là, avec leur courage, se sont données pour toujours aller se rencontrer avec les autres, pour accepter ce traitement-là psychologique à travers ces formations. Ce prix vraiment est le bienvenu pour les femmes victimes des atrocités.
C'était Sœur Angélique Namaïka, interrogée par Hélène Destombes. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. All you need to know.